Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Pierre Volovitch, chercheur à l'IRES.
C'est-à-dire à l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Là, visiblement, d'après ce que j'ai compris, c'est absolument affreux, épouvantable. On l'avait déjà vu avec les retraites. Enfin, les retraites, tout le monde le sait, on était au bord du gouffre. Cette fois, c'est la Sécu. Enfin, la situation est extrêmement angoissante. 10 milliards environ de déficit pour 2003, environ 15 milliards pour 2004. Visiblement, rien ne va plus. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai compris en écoutant les médias. Ça veut dire que je ne pourrai plus du tout aller voir mon médecin pour me faire rembourser à très très brève échéance.
Non. Vous pourrez vous faire rembourser, mais peut-être avant de rentrer directement dans l'assurance maladie, il est peut-être nécessaire de donner quelques explications que les gens s'y reconnaissent bien, parce qu'on est dans un domaine où les journalistes en général ont tendance à utiliser un vocabulaire extrêmement flexible. Alors, si on part du plus large et qu'on réduit un peu, nous sommes dans un pays qui consacre 400 milliards d'euros, c'est-à-dire en gros un quart de la richesse produite, à ce qu'on appelle la protection sociale, c'est-à-dire à protéger les gens en cas de maladie, de vieillesse, de charges de famille ou de chômage. Ça, c'est la protection sociale. Sur cet ensemble, il y a ce qu'on appelle strictement la sécurité sociale. Alors la sécurité sociale, c'est plus réduit, d'abord parce que le chômage n'est pas dans la sécurité sociale et parce qu'il y a un certain nombre de prises en charge collectives, en particulier par exemple les mutuelles, qui ne sont pas la sécurité sociale. Et puis pour des raisons historiques, sur lesquelles il peut être intéressant de revenir, mais on n'a pas le temps là, la sécurité sociale, elle n'est pas la même pour tous les Français. Il y a des gens qui savent que les mineurs ont leur propre régime, les agriculteurs ont leur propre régime. Et donc, il y a un régime général de la sécurité sociale qui, lui, représente la moitié de l'ensemble. À l'intérieur de ce régime général de la sécurité sociale, il y a une branche vieillesse, une branche famille, une branche maladie. Voilà. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de la branche maladie de la sécurité sociale. Et alors le problème, c'est que dans les médias, la Sécu peut désigner la branche maladie de la sécurité sociale, l'ensemble du régime général de la sécurité sociale, toute la sécurité sociale ou toute la protection sociale. Et si le citoyen qui a envie un peu d'y comprendre quelque chose fait pas attention, il peut être rapidement piégé. Donc ici, si j'ai bien compris ce dont vous voulez qu'on parle, on va parler de l'assurance maladie, qui aujourd'hui, alors on ne parle que de l'assurance maladie, pour la très grande majorité des Français, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est-à-dire l'organisme qui rembourse, l'organisme de base qui rembourse leurs soins de maladie. S'ajoute à ça une caisse pour les agriculteurs, une caisse pour les indépendants et quelques caisses spécifiques, mineures, SNCF, etc. Mais vraiment, le 80% de ce qui se fait dans ce domaine relève du régime général, donc on va parler du régime général de l'assurance maladie. Alors c'est lui qui est en déficit, avec des déficits qui sont extrêmement importants. Il n'est pas question de dire qu'ils sont pas importants, mais en même temps, on va relativiser les choses. C'est que le déficit, alors aux dernières nouvelles, en cumulé, ça ferait 16 milliards. Ça se rapporte à des dépenses qui sont, je ne vais pas dire de bêtises, à des dépenses de remboursement qui sont de 136 milliards. Ce qui veut dire que le déficit représente un peu plus de 8% des ressources. Mmh. Donc c'est extrêmement considérable, mais c'est pas non plus la faillite. Faut se rappeler, simplement pour comparer, hein, on fait toujours beaucoup de bruit autour des déficits de la Sécu, du trou de la Sécu. En même temps, le budget de l'État, lui, tous les ans, il est voté en déficit. Ça fait partie des règles. Et le budget de 2002, il a été exécuté, c'est-à-dire une fois qu'on a fini le budget, avec un déficit de 21%. C'est utile de se rappeler quand on nous pousse des cris sur le déficit de la Sécu à 8%. C'est-à-dire, une fois de plus, c'est pas question de nier qu'il y a un problème de financement. En même temps, la dramatisation du déficit est toujours, pour qui suit un peu le dossier, le fait que ce déficit-là soit mis en scène, dramatisé, utilisé pour restreindre, est toujours un petit peu irritant.
Mais un déficit, ça veut dire qu'on dépense plus qu'on a de recettes, c'est bien ça?
Absolument. Et c'est la deuxième chose qui est un peu gênante quand on voit que les choses sont prises sous l'angle du déficit. C'est comme le déficit, c'est le résultat de deux évolutions, recettes et dépenses. En parlant du déficit, on n'éclaircit pas le débat, on l'obscurcit plutôt. Alors, le déficit d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est des dépenses qui progressent. Les dépenses d'assurance maladie progressent, on reviendra, j'espère, là-dessus tout à l'heure. Mais il n'y a pas eu de progression beaucoup plus importante les deux dernières années que les années antérieures. Mais il y a des recettes. Or, ce qui fait le déficit de cette année, ce qui rend le déficit de 2004 effrayant, etc., c'est que les recettes ont considérablement baissé. Alors, pour une raison très simple, c'est que les recettes de la protection sociale, que ce soit des cotisations ou que ce soit de la CSG, elles sont assises sur les salaires et sur l'évolution des salaires. En 2000 et 2001, le chômage s'était réduit, les salaires progressaient de manière plus rapide et on avait des progressions de masse salariale autour de 6%. En 2002, on a eu une progression de masse salariale qui est tombée à 3%. Et en 2003 et 2004, ça risque d'être pire. Donc le déficit d'aujourd'hui, c'est pas vous étant précipité plus que de coutume chez votre toubib. Le déficit, le creusement du déficit, c'est pas un problème d'assurance maladie, c'est un problème de chômage, de faible progression des salaires, de mauvais partage de la richesse dans ce pays. C'est un déficit qui est lié aux recettes et pas aux dépenses.
Des souhaits des hommes, et on est toujours en compagnie de Pierre Volovitch, qui est donc chercheur à l'IRES. Vous me disiez tout à l'heure que finalement, s'il y avait déficit, c'était parce qu'il y avait du chômage, d'une part, et d'autre part, parce qu'il y avait eu peu de progression des salaires. Mais ça, c'est le genre de truc qu'oublient de nous dire des libéraux, par exemple. Mais il y a quand même une réalité des dépenses de santé qui augmente, non ?
Il y a une réalité des dépenses de santé qui augmente, mais c'est la question est celle-ci. Nous avons décidé en 45, enfin nos parents, parce que nous on n'était pas là, que les dépenses de santé, c'était pas chacun qui se débrouillait avec, mais que la collectivité les prenait en charge. Pas tout, enfin faut leur discuter de ça, mais que majoritairement c'est la société qui les prenait en charge. Les dépenses de santé, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Les dépenses de santé dans un pays qui se développe et qui s'enrichit, parce que ce pays s'enrichit, tout le monde s'enrichit pas dans ce pays, mais ce pays s'enrichit, sont des dépenses qui augmentent parce qu'on est plus capable de soigner plus de maladies avec du matériel qui coûte plus cher et que les gens qui bossent dans le secteur de la santé, ils demandent que leurs revenus augmentent comme le reste de la société. Donc, tout le monde est d'accord que les dépenses de santé vont augmenter. La question qui est devant nous, c'est est-ce que ces dépenses, on continue à les prendre en charge collectivement pour éviter qu'il y ait des inégalités dans ce domaine, ou est-ce que, petit à petit, on va dire aux gens, les dépenses de santé, vous les prenez en charge, chacun dans votre coin. Alors, il y a un pays qui joue à ça, donc c'est intéressant de le regarder, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, on sait ce que ça donne. Ça donne d'une part des inégalités dans l'accès aux soins extrêmement grandes, parce que ceux qui peuvent se payer des assurances accèdent à des soins auxquels les autres accèdent pas. Et ça donne en plus le pays où les dépenses de santé sont les plus importantes. C'est-à-dire que l'inégalité est même pas source d'économie, elle est au contraire source de dépenses. Alors moi, je regarde peu la télé, mais je suis déjà passé devant Urgence, que tout le monde a déjà dû se payer. Et dans Urgence, un épisode sur trois, parce que c'est les États-Unis, les scénaristes sont réalistes, quelqu'un arrive à l'hôpital, et avant de le soigner, les médecins se posent la question de savoir il est couvert par quelle assurance? Moi, à chaque fois, ça me, mon estomac fait un nœud. Je ne veux pas clairement vivre dans un pays où quelqu'un qui arrivera à l'hosto, on commence par se poser la question de savoir s'il a des sous pour payer ou s'il a la bonne assurance pour être couvert. Mais si on veut pas de cette société-là, et clairement, moi, j'en veux pas, ça veut dire qu'il faut qu'on se donne les moyens de mettre plus d'argent dans les dépenses collectives de santé.
Mais est-ce que ces augmentations, parce qu'à entendre le gouvernement, pour ainsi dire, on a l'impression qu'effectivement je me précipite sur les médicaments, que je les mange comme des bonbons, que j'ai une envie frénétique de médicaments et que c'est une attitude visiblement générale dans l'ensemble de la population. Il y a une réelle augmentation terrible des dépenses de santé.
Non, il y a une augmentation des dépenses de santé, en gros de 5 à 6% par an, ce qui, vu les taux de croissance qu'on fait aujourd'hui, font que les dépenses de santé sont plutôt plus importantes dans le PIB. Mais faut pas oublier que faut pas oublier que la dépense de santé, ça peut être utile, pas toute, hein, faudrait... Bon, mais en gros, ça sert à soigner les gens, c'est mieux que d'autres dépenses. Qu'ensuite, ça crée des emplois d'infirmières, de médecins, qui sont des emplois plutôt intéressants, qu'on pourrait mieux répartir sur le territoire. Enfin, bon. Donc, là, une dépense de santé, c'est pas forcément une catastrophe. Hein. La deuxième chose, c'est que le discours sur le fait que ce seraient les gens qui seraient responsables de leurs dépenses de santé néglige complètement le fait que la grande majorité des dépenses de santé sont concentrées sur un tout petit nombre de gens qui ont des dépenses de santé parce qu'ils sont très malades. Et que quand on en est à être soigné pour un cancer, le sida ou du diabète, on est clairement dans le domaine où c'est pas le malade qui décide... De prendre des médicaments en plus pour se faire plaisir. Alors il y a des gens, ça se mesure, on sait qu'il y a des gens qui, ayant été voir un toubib, en vont en voir un autre pour se rassurer, etc. Il y a des problèmes d'organisation, etc. Mais c'est pas la cause principale d'augmentation des dépenses de santé. Et surtout, ce qui est désagréable dans ce discours, c'est qu'une fois qu'on dit c'est la faute des gens, ce qui, une fois de plus, est faux au niveau de la réalité de la dépense, c'est parce que derrière, on dit il y a une bonne solution pour limiter l'évolution des dépenses, il faut que les gens payent. Alors, Mattei a même raconté qu'il fallait sortir du tout gratuit. Alors, on signale à Mattei que c'est pas tout gratuit, parce que la Sécu, elle prend en charge l'assurance maladie. J'ai fait la même erreur que le journaliste moyen. L'assurance maladie ne prend en charge que 75% de la dépense en moyenne, et dans le dentaire, elle ne prend en charge que 35% de la dépense, donc on est loin du gratuit, et que les gens, s'ils veulent être remboursés, faut qu'ils se mettent auprès d'une mutuelle, d'une complémentaire, faudrait reparler de tout ça. Donc on n'est pas dans du gratuit, et plus ce sera payant, alors tout le monde le sait en plus, donc y compris Mattei, si on rend les choses payantes, eh ben il n'y a pas de miracle. Ceux qui ont des sous, ça les arrête pas, et ceux que ça gêne, c'est ceux qui n'ont pas de sous, et donc on a des effets d'inégalité très importants. Et les pouvoirs publics avaient fini par le comprendre, et c'est pour ça qu'on avait mis en place la CMU. Donc le fait qu'on revienne à des discours sur Séguin, il y a longtemps, quand il était ministre des Affaires sociales, avait dit « les Français ont le droit de manger plus de médicaments, mais dans ce cas-là, faut qu'ils les payent ». Le problème, c'est que dans une société où les revenus sont inégalitaires, dire que les gens doivent payer leurs soins, ça veut dire que les pauvres, eh ben, ils auront le droit de se payer moins de soins que les riches.
Mais comment on fait quand même pour payer ce fichu déficit? C'est une question bêtement économique, c'est que je ne comprends pas comment on fait. Parce que finalement, on doit payer plus de remboursements, plus de frais hospitaliers, plus de tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, on n'a pas les sous. Donc comment on fait pour...
On n'a pas les sous. Il y a une décision collective. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Il y a une décision collective à prendre. Est-ce qu'on veut continuer à prendre en charge collectivement les dépenses de santé? Il y a deux conséquences à cette décision. D'une part, il faudra trouver des financements. Faudra, par exemple, augmenter. Alors après, il y a des débats tout à fait intéressants sur est-ce qu'on augmente les cotisations, est-ce qu'on augmente les impôts. Je voudrais simplement rappeler qu'on est dans un pays, ATTAC le rappelle régulièrement, où la part des profits dans la valeur ajoutée a gagné 10 points dans les 20 dernières années. Le PIB, c'est 1 520 milliards. 10 points de PIB, c'est 150 milliards. Si les 150 milliards étaient restés dans les salaires, tout le monde voit bien que les 150 milliards, ça finance sans problème les 16 milliards qui nous manquent du côté de l'assurance maladie et qu'il y a même de quoi payer du côté de la retraite. Donc il y a des enjeux de ce type-là? Est-ce qu'on est capable de partager la richesse nationale de telle façon qu'on puisse financer ce genre de dépenses? Et après, il y a une autre question qui est également importante, qu'il faut absolument pas évacuer, mais qui est une autre question. C'est une fois qu'on met 136 milliards dans les dépenses de santé, est-ce qu'on met ces 136 milliards au bon endroit? Or, le drame de l'été, parce que ce qui se passe, c'est que les dépenses de santé, contrairement à ce que rêvait Juppé, n'ont pas été jugulées, elles continuent à augmenter, ce qui en soi n'est pas une nouvelle catastrophique de mon point de vue. Le problème, c'est qu'elles augmentent manifestement pas là où on en aurait besoin, et le drame de cet été a prouvé que les dépenses de santé, elles n'étaient pas mises là où elles auraient été utiles pour les petits vieux. Et ce qui est devant nous là, vraiment ce qui est devant nous, c'est sommes-nous capables de discuter collectivement de l'utilisation des 136 milliards qu'on met dans la santé pour essayer de réfléchir à où est-ce qu'il faut les mettre, est-ce que c'est là qu'il faut les mettre, et est-ce qu'il n'y a pas à mettre plus d'argent prioritairement dans tel type de soins plutôt que dans tel autre, voire mettre de l'argent dans des choses qui sont pas directement de la santé, parce que les petits vieux là, ils sont pas morts seulement de manque de soins, ils sont morts du fait que les services sociaux, la prestation dépendance sont pas au niveau où ils devraient être pour le permettre qu'ils soient entourés, pris en charge et pas forcément par des choses médicalisées.
On est toujours en compagnie de Pierre Volovitch, donc toujours de l'IRES, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, mais par contre, il n'a toujours pas voulu répondre à ma petite question. Alors, ma petite question, je le rappelle, c'était de savoir comment on faisait quand on est je sais pas s'il faut que je dise la sécu sociale, mais enfin bref, quand on a un déficit, comment on fait? Parce que je veux bien qu'on ait enfin, on pourrait faire mieux, on pourrait trouver des bonnes solutions pour que ça n'existe pas, mais enfin, de fait, il est là, alors comment je me débrouille?
Bon, alors, il y a deux choses. Au jour le jour, les caisses de la Sécu ont des recettes, ont des dépenses, et il y a évidemment, comme dans n'importe quel budget, des moments où j'ai moins de recettes que de dépenses. L'État dispose d'un certain nombre d'organismes financiers, dont un très important, qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations, et tous les ans, au moment du vote de la loi de financement de la Sécurité sociale, il est voté le plafond auquel la Caisse des dépôts et consignations doit financer la Sécu quand il lui manque des sous. Ce qui, par rapport à votre question du tout début, vous rassure, vous serez remboursé. Il n'est pas question que les gens, on ne dira pas aux gens, vous ne pouvez pas être remboursé. Donc là, techniquement, les circuits financiers existent. Maintenant, techniquement, c'est résolu. Sur le fond, la question est, la Caisse des dépôts, elle fera pas ça à 25 ans, donc faut trouver des recettes en plus, et ça renvoie à une question qui, elle, est politique et pas technique, c'est comment on répartit la richesse dans ce pays.
Mais juste une subite interrogation, ça existe depuis longtemps, ces déficits de la Sécu, ou finalement c'est relativement neuf? Ça existait il y a 20 ans?
Oui, ça existait il y a 20 ans, et on a eu les déficits de la Sécu sont d'autant plus importants que la croissance a des ennuis. Et donc, sous le gouvernement socialiste, parce qu'il y avait eu une croissance économique mondiale importante et parce qu'il y avait eu des mesures sur le chômage qui avaient fait réduire le chômage et qui avaient fait que les salaires augmentaient plus vite, il y a eu des années d'excédent de l'ensemble sécurité sociale, pas de l'assurance maladie toute seule, mais dans l'ensemble, ça faisait des excédents. Et puis là, c'est retombé dans des déficits. La chose un peu désagréable des déficits de la Sécu, c'est que ils sont souvent très médiatisés, on leur donne un côté tragique qu'on ne donne pas au déficit de l'État, ce qui nuit à la qualité d'un vrai débat, c'est pourquoi ça augmente et qu'est-ce qu'on met en face pour pouvoir le financer. Mais c'est pas nouveau, suivant les périodes, on rend le trou de la Sécu plus ou moins tragique.
Donc il n'y a pas un si gros déficit que ça, il n'y a pas finalement une telle augmentation que ça de la prise de médicaments, on pourrait dire, si on le fait rapidement, ça va presque bien?
Non, il ne s'agit pas de dire que ça ne va pas bien. Il s'agit, de rappeler qu'il y a un déficit, mais que la Sécu n'est pas en faillite demain matin, qu'il y a une vraie question à se poser, et que ce qui ne va pas bien, c'est que il y a un certain nombre de gens qui, dans ce pays, Mattei et autres, pensent que l'augmentation des dépenses de santé ne doit plus être prise en charge par la collectivité, mais renvoyée sur chaque individu avec un risque de développement des inégalités important. Mais on est dans un pays où, une fois de plus, quand le PIB de ce pays est de 1520 milliards, le financement de 16 milliards de déficit, c'est pas une question négligeable, mais c'est pas non plus une bombe atomique qui empêche de réfléchir à ce qui se passe.
Eh bien, on va avoir la joie de se revoir la semaine prochaine et qu'on va pouvoir peut-être parler un peu plus de notre ami Mattei. En tous les cas, pour cette semaine, c'est fini. Je tenais à signaler l'existence d'une petite revue qui permet de savoir beaucoup de choses sur la CMU. 4 ans que ça existe, donc une petite somme qui permet de savoir comment ça fonctionne tout ça. Ça peut se commander au CERC, C-E-R-C. 10 rue Jacques Mawas, oh là là, M-A-W-A-S, 75 015, Paris.
Et pour être complet, c'est CERC Association.
Oh, ça change tout. Et puis, j'ai une surprise tout à l'heure, c'est ce que je ne savais pas. Pourtant, je l'avais lu souvent, le monsieur, c'est qu'en face de moi, j'avais Marge et Manœuvre à lui tout seul. Et donc, vous pouvez lire The Best Of des petites chroniques Marge et Manœuvre qu'on peut trouver donc dans Alternative Économique. Donc ça s'appelle « Marge et manœuvre sont dans un bateau », ça va peut-être mal se terminer, c'est aux éditions du Toit. À la semaine prochaine !